Alors, soi et raison, ce n'est évidemment pas à partir de mon expérience de l'Orient que je vous en parle, c'est à partir de mes 15 ans. J'étais pendant 15 ans prof de philo et prof de théologie fondamentale à l'Université catholique de Lyon et au séminaire de Ars. Donc c'est un tout autre arrière-fond que ce dont nous avons parlé hier. Alors qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais simplement cet après-midi commencer par essayer de comprendre avec vous comment se fait-il qu'il y ait aujourd'hui un tel antagonisme entre foi et raison. Qu'au nom de la raison, on repousse aussi violemment la foi. C'est très étonnant, car cela date pratiquement du 19e siècle. Disons grosso modo du 19e siècle. Avant cela, les deux faisaient très bon ménage, et même les non-croyants n'avaient pas cette hostilité par rapport à la raison. Donc vous voyez ce que j'essaie de faire, en espérant ne pas être trop compliqué. Dès que je suis compliqué, vous m'arrêtez. Mais ce que je me dis, aborder le rapport foi et raison, il me semble nécessaire de le situer sur la situation contemporaine, dans notre culture, où il y a une fracture entre foi et raison très forte. Et il faut donc comprendre comment on en arrive à cette fracture. À partir de cette compréhension, toutes vos questions peuvent venir. Alors, rapport entre physique et foi, science, je veux dire foi, et même revenir sur l'encyclique du pape Jean-Paul, et tout ce que vous voulez. Mais il faut, me semble-t-il, le mettre en situation. Ça marche? Ça ne vous fait pas trop peur? Cette dimension historique? Allons-y. Au départ, je vous répète, au moment où le christianisme est diffusé, il apparaît comme une énorme libération. Il faut savoir que dans l'Antiquité, les hommes et les dieux étaient soumis au destin, le fatum latin, la moira grecque. Ça ne peut pas se faire autrement. Il y a un poids. Si vous connaissez un peu les tragédies grecques, il y a toujours ce poids de la moira qui s'impose, je répète, aux dieux et aux hommes. Or voilà que la bonne nouvelle, c'est l'annonce d'un dieu qui libère l'homme de toutes ces contraintes, de toutes ces aliénations. Un Dieu qui épouse les difficiles conditions humaines après le péché, mais à travers la croix, ouvre sur une liberté inconditionnée. Faites-nous des fils d'un Dieu bienveillant. La rapide diffusion du christianisme dans le bassin méditerranéen est en partie due à cela. L'autre raison, je le dis entre parenthèses, c'est la solidarité. C'est impressionnant. C'est la charité concrète entre des chrétiens. Je le répète ici parce que nous sommes de nouveau dans un monde individualiste, chacun pour soi. C'était un peu l'atmosphère du bassin méditerranéen, avec beaucoup de sectes, depuis Mitra, de tas de trucs, mais un peu chacun replié pour soi. Et lorsqu'on a vu des chrétiens instaurer un partage de vie, un partage de travail, et même, comment ça s'appelle en Belgique, les bureaux pour trouver du travail. Voilà, les chrétiens l'avaient inventé. Ils trouvaient du travail pour tous, y compris pour des non-croyants. Ils avaient le souci de la solidarité, même pour des non-croyants. Imaginez quelle révolution. Mais il m'a encore dire ça de cette fameuse révolution chrétienne. Lorsque, après Constantin, son fils, comment il s'appelle, le païen, il a son nom, on l'appelait le... Non, c'est pas lui, c'est juste après encore. Comment il s'appelle le... ça va me revenir. Il y a une épidémie, on ne sait pas trop, est-ce que c'est du choléra ou de la lèpre, on ne sait pas trop. Tout le monde s'enfuit des villes, forcément, parce que c'est le lieu où les maladies pullulent. Les médecins en premier, les médecins de l'époque. Et on a retrouvé Julien Laposta. C'est Julien Laposta. Et on a retrouvé des documents où les évêques appellent les chrétiens, leur disent, venez, ils appellent ceux de la campagne, venez en ville, nos Christs meurent en ville. Nos Christs sont les malades, et les chrétiens viennent en ville soigner les gens qui sont atteints de l'épidémie. Et ils construisent les premiers hôpitaux. Julien Laposta, il s'outrage parce qu'il voit que ça rend les chrétiens hyper sympathiques. Et il veut construire lui aussi des hôpitaux. sauf qu'il ne trouve personne pour soigner les malades. Il va construire des bâtiments, mais il n'aura personne pour soigner les malades. Et oui, parce que la motivation manquait. Tandis que les chrétiens avaient une motivation. Voilà une des raisons de ces diffusions. La deuxième raison est cette libération qu'apporte le christianisme par rapport aux croyances de l'époque. Donc il y a aucune raison à ce moment-là d'opposer l'une ou l'autre chose. Alors, je cite immédiatement, en contraste avec ce que je viens de dire, un accueil favorable d'une religion qui libère, pensez au martyr Justin, qui est un philosophe et qui découvre le christianisme, il meurt en 150, martyr, et il va déclarer qu'il a trouvé dans le christianisme la vraie philosophie. Et pour eux, la vraie philosophie, c'est une vision rationnelle qui leur permet d'affronter sereinement la mort. Parce que la grosse question, c'est quand même le sens de la vie qui se heurte à la mort. On parle du sens de la vie, c'est gentil, mais il y a une chose qu'on dirait, est de guerre. On est tous sur le même pied, on est tous jetés vers la mort, dit-il. C'est son expression en allemand, c'est le Wolfman, jetés vers la mort. C'est toujours été la question du philosophe, comment donner sens à une vie qui s'aboutit dans la mort. Justin dit, mais je reste philosophe, mais j'ai trouvé la vraie philosophie. Clément d'Alexandrie, 150 ans plus tard, n'ira pas autre chose. Voilà la vraie philosophie. J'insiste pour que nous entendions que foi et raison peuvent très bien marcher ensemble. Écoutez ce que dit Luc Ferry, philosophe, qui a été ministre de l'Éducation nationale en France, et Marcel Gauchet, philosophe, tous les deux très connus, c'était philosophe à notre époque. Ils ont commis un ouvrage ensemble, Le religieux après la religion. Ils disent, l'homme et Dieu sont séparés comme jamais ils ne l'ont été dans l'histoire de l'Europe et probablement dans l'histoire du monde. Nous sommes sortis de l'ère d'une autonomie à conquérir contre l'hétéronomie. Autonomie de l'homme et de la raison contre l'hétéronomie de la foi. Hétéronomie, nomos, c'est la loi. Hétéros, extérieur. Hétéronomie, c'est une loi qui m'est imposée de dehors. Autonomie, c'est une loi que je me donne à moi-même. Nomos, loi, auto. Donc on est sorti, dit-il, de l'ère d'une autonomie à conquérir. Ça y est, nous avons conquis notre autonomie rationnelle contre l'hétéronomie de la foi, une hétéronomos, une nomos que Dieu nous impose de l'extérieur. Donc il considère que la foi est aliénante. On n'est pas libre. Et il continue. Ce processus de conquête de l'autonomie sous-entendue sur la foi est achevé. Nous vivons définitivement dans un monde sans Dieu, dans lequel l'homme est tout à fait séparé du divin. C'est impressionnant. La vie est terminée, l'affaire est classée. C'est impressionnant de voir combien il y a un antagonisme très fort, c'est out, c'est ou la foi ou la raison. Après ce que je vous ai dit, c'est étonnant. Et deuxièmement, ce que je trouve surtout étonnant, je trouve pas le terme de mauvaise foi. Nous savons bien aujourd'hui que la majorité des gens sur la planète, la majorité, ont une croyance, une adhésion. Les vrais athées sont très peu nombreux. D'ailleurs, c'est très drôle, hein. L'athée se définit comme celui qui refuse Dieu. Donc, dans sa philosophie, il prononce Dieu toutes les deux phrases, juste pour le supprimer. C'est l'agnostique qui est plus dangereux, parce que lui, il ne veut pas savoir. C'est toute chose. Mais la majorité des gens sont croyants. Ils ne sont pas tous chrétiens. Mais comment peut-il dire ça, ces deux philosophes? C'est tout simplement un reçu irrationnel d'une réalité objective. C'est tout à fait irrationnel. Il prétend que la raison s'affranchit de la foi, mais cette déclaration est irrationnelle, puisqu'elle n'est pas fondée sur les faits objectifs. C'est l'idéalisme. Je veux que la religion soit terminée, donc je l'affirme. Le problème, c'est que ça trouble des gens. Alors que vous savez que, mondialement parlant, les religions les plus représentées sont côte à côte l'islam et le christianisme. Christianisme, si j'y compte aussi les évangélistes, on a même une longueur d'avance sur l'islam. On n'est pas là pour faire la course, mais pour avoir du nombre. Mais pour vous dire que c'est absurde. Mais cela montre une passion. Il y a quelque chose de passionné contre la foi. Alors c'est ça que je voudrais voir, comment on est allé à cette conception que la foi est une aliénation, que si nous voulons vivre libre, il faut éliminer l'hétéronomos, la parole normative de Dieu, transportée par une église qui ajoute encore sa propre autorité, son propre poids, un clergé et ces choses-là. Bien. Premier principe, c'est le rationalisme, bien sûr. Je vais aller à grande enjambée, c'est pour qu'on comprenne l'idée. Je citerai ici le principe d'immanence de Spinoza, qui reste valable pour la suite. Spinoza dira, avec, je crois, beaucoup de sincérité, il dit, mais enfin, nous avons reçu une raison de Dieu. La vérité nous est accessible par notre raison. Il serait indigne de l'homme de devoir adhérer à une vérité qu'il ne puisse pas tirer de son propre fond, de sa propre raison. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné une raison si ce n'était pas pour trouver toute la vérité? Vous voyez, principe d'immanence. La vérité, c'est de l'intérieur de moi que je la découvre et que je la décide. Autonomos. Vous voyez, madame, je reviens toujours sur ce même terme. Et je refuse une parole supposée de vérité que je devrais recevoir de l'extérieur. Alors elle va s'imposer à ma raison. C'est indigne de l'homme. Il n'est pas pour autant, il ne rejette pas pour les juifs, il va être mis au banc du judaïsme, hein, mais bon, il ne rejette pas les livres saints. Mais son explication sera, je vais la retrouver chez Voltaire, son explication c'est de dire, le philosophe peut trouver la vérité, parce qu'il sait bien employer sa raison. Mais les gens du peuple n'ont pas la capacité d'employer leur raison. Donc il leur faut des histoires impressionnantes pour qu'ils restent dans le bon agir par peur d'une sanction divine. Ainsi, ils vivront d'une façon morale, par peur des sanctions de Dieu. Mais le philosophe, lui, il vit moralement parce qu'il a vu où est la vérité, où est le bien. Vous voyez, c'est un peu élitiste. Mais cette explication-là va grandir de plus en plus. La raison s'affranchit de quelque chose qui lui serait étranger. Il n'y a plus la complémentarité entre les deux. J'ai cité Voltaire. Je vais le prendre un petit peu sous le collimateur. Donc, Spinoza, nous sommes au XVIIe siècle. Voltaire, nous sommes plutôt au XVIIIe siècle. Je vais vite, hein. Mais je cite Voltaire parce qu'il est bien connu pour il faut détruire l'infâme, hein. Il faut écraser l'infâme. C'est une parole qui est restée célèbre de Voltaire et qui montre bien que là, il y a un antagonisme terrible. Mais l'infâme, pour lui, c'est pas Dieu. C'est l'Église. Il est du verbe haïr, l'Église, les dogmes, les institutions, tout cela il est. Mais en même temps, c'est Voltaire qui dira, il y a deux sortes d'hommes qui sont, il ne faut pas suivre, il y a une parole très dure, elle ne revient pas immédiatement à la mémoire, qui sont deux formes de folie en substance. C'est le libertin, et le libertin pour lui, c'est celui qui ne croit pas en Dieu, il y en avait dans sa société. Et le croyant. Ah, vous me dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si le libertin et les croyants sont considérés comme des fous, il ne reste plus personne. Si, si. Le libertin est un fou parce qu'il refuse Dieu, alors qu'il devrait être évident pour tout homme raisonnable, raison, que, et là vous connaissez l'image, une horloge aussi qui fonctionne aussi bien ne saurait fonctionner sans horloger. Il dit, il est évident qu'il y a un Dieu qui gère cette création. C'est impossible autrement de comprendre le monde. Donc le libertin est fou. Mais le croyant est tout aussi fou. Parce qu'au lieu de rester auprès de Dieu qui s'impose à la raison, il va écouter des balivernes qui sont écrites dans des livres qu'il considère comme des récits, comme tout autre récit, comme tout roman. Et il a une critique acerbe contre les Écritures. Vous voyez que nous ne sommes plus dans une démarche de foi, mais uniquement dans un déisme. Au début, il est très agressif contre le Christ. Je n'oserais pas vous répéter les mots qu'il dit contre le Christ, c'est des blasphèmes. Il a une plume agressive dans son dictionnaire, il est agressif. Mais puis il va changer. Il va changer en cours de route, j'ai dit, il va venir plus bienveillant. Voilà, j'ai noté quelques... Le Socrate de la Galilée, un homme distingué par son zèle, par sa vertu, par son amour de l'égalité fraternelle, et même le premier des théistes. Ouais, ils auront son théisme et théisme, c'est maintenant un détail. Le théiste, c'est un dieu nécessaire, mais personne n'aime soi. Donc, il va modérer, se moduler, mais il ne va pas reconnaître Jésus comme Dieu ni comme sauveur. Pas question, bien sûr. Mais son agressivité va un petit peu diminuer. L'immortalité de l'âme lui pose des gros problèmes. Parce qu'il dit, nous ne sommes tout autre qu'une masse de chair qui réfléchit un peu. Pourquoi diable est-ce qu'elle serait immortelle? Donc, pas d'immortalité de l'âme. Vous voyez que nous sommes, là, le divorce est fait. Il y a d'un côté la raison qui va poser quelques jalons, un dieu nécessaire pour expliquer la science. N'oubliez pas qu'il est contemporain de Newton, j'en dirai un peu les mots, du grand développement Galilée, c'est le début de la physique, on pourrait dire, moderne, disons, de la physique mathématique, c'est Galilée et Newton, les deux grands Newton, son grand ouvrage, c'est 1687, vous voyez, c'est cette époque-là. Donc, il est clair qu'il y a un dieu, mais la foi, au sens de l'adhésion à la parole révélée, au sens de la reconnaissance d'un sauveur, non. Non, il y a quelque chose. Je suis très impressionné par les peintures qui représentent Voltaire. Il est toujours là comme ça, avec un sourire narquois. C'est désagréable, cette espèce de regard hautain qu'il avait, qu'il a, bon, mais pas à son âme, hein, je ne veux pas. Mais ça représente quelque chose de personnalité. Évidemment, il s'inscrit dans une histoire. Il avait dans sa famille, il avait aussi bien des jansénistes que des libertins. Vous voyez, on est lié. Hein? Là, ce serait l'influence de la psychologie sur notre propre histoire. Il a rejeté les libertins et la raideur du jansénisme des deux côtés. Mais bon, ça, j'en vais pas plus loin. Je voulais voir le rapport foi et raison. Un dernier petit point sur Voltaire pour vous dire où ça peut nous conduire. La raison est capable de trouver la vérité. N'allons pas trop vite avec ce mot vérité. Un Dieu nécessaire, oui. Mais je vais tout de suite vous montrer pourquoi. Parce qu'il va réfléchir, il va dire, oh là là, c'est clair que ces bondieuseries, ça n'existe pas. Mais en même temps, si on ne garde pas un petit peu une religion menaçante, le peuple va sans cesse faire des révolutions. Il faut quand même les tenir un petit peu. Il faut les encadrer, quoi. Tiens, tiens. Il y a donc d'un côté le travail rationnel, et puis de l'autre côté, cette vérité qu'il a trouvée, il sait l'adapter pour son profit, parce que lui, il faisait partie de la classe quand même dirigeante, qui avait tout intérêt à ce que le peuple reste très tranquille. Vous voyez que la notion de vérité est non. Il n'y a plus de fondement. Lorsque la vérité est uniquement un fondement dans ma seule raison, je peux très bien devenir manipulateur et créer des vérités en fonction de mon besoin. La vérité tient par son fondement dans la vérité avec un grand V. C'est des valeurs. Et les valeurs ne tiennent qu'en fonction de leur fondement dans un absolu des valeurs qui est Dieu. Et c'est ce que nous pouvons voir tout au long de l'histoire, hein. Chaque fois que les valeurs sont détachées de leur socle en Dieu, on tombe dans le relativisme tel qu'on le voit aujourd'hui. Chacun a sa vérité. Ni il nouveau, il n'y a rien de nouveau. C'est pour ça que je remonte dans l'histoire. Hein, comment ce qui apparaît au grand jour était déjà présent, mais dans une société qui restait globalement chrétienne et globalement acceptait la direction de l'Église, de l'Évangile et de l'Église, mais les précurseurs du divorce que nous assistons étaient déjà là. Alors je vous disais qu'un Galilée, un Descartes, un Leibniz, un Newton, surtout Galilée, Newton, c'est les physiciens, sont des croyants. Du moins, ils croient qu'ils sont croyants. Ils sont apologistes. Ils se mettent en... Surtout Newton, il a des... J'avais fait un travail sur les publications de Newton. C'est très intéressant de voir comment il veut mettre la science au service de la démonstration de l'existence de Dieu. Bravo! Oui, mais de quel Dieu? Certainement pas le Dieu de la révélation. Mais ce fameux Dieu déiste, ce Dieu qui est nécessaire pour expliquer les phénomènes physiques qu'on n'a pas encore compris. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est très dangereux. Parce que si c'est un Dieu qui explique les phénomènes physiques incompris, ça veut dire que chaque fois que la science avance, Dieu recule. Et évidemment, c'est ce qui va se passer. Si Dieu est juste le bouche-trou de notre ignorance, mon Dieu, pauvre Dieu. Et c'est un peu ce qui se passe. À ce moment-là, ils sont pleins d'enthousiasme. Et Newton a de longues tirades où il démontre l'existence de Dieu. Mais vous savez, c'est très, très, très fragile. Alors, l'athéisme va, à mesure que la science avance, l'athéisme va apparaître. Il va jubiler. Exactement ce que je viens de dire. Hein. Ce Dieu qui recule à mesure que la science avance, éliminons-le une bonne fois pour toutes. Et vous savez comment, au XVIIIe siècle, d'Alembert, d'Holbach sont franchement matérialistes et athées. La rupture s'est faite. Mais nous ne sommes pas encore dans l'agressivité. Il y a une rupture. On regarde avec condescendance ces petits chrétiens. Bon, mais si ça leur fait du bien d'aller à la messe, pourquoi pas, n'est-ce pas? Comme disait quelqu'un, c'est un grand monsieur de la médecine française, il est mort maintenant, personne, Anderger, qui est un généticien. Il dit, si pour vous calmer vos neurones, il est matérialiste pur et dur, si pour calmer vos tensions, ça vous fait bien de boire une bonne bière, buvez une bonne bière. Si ça fait du bien d'écouter un concert de Mozart, écoutez un concert de Mozart. Si ça fait du bien d'aller à la messe, allez à la messe. Religieux, comme la bière et le Mozart, c'est pour calmer les nerfs, mais il n'y a rien de transcendant, on est dans un matérialisme pur et dur. Là. Alors, où est-ce que ça va passer au niveau violent? Eh bien ça, c'est au tournant, pratiquement, c'est à la fin du XVIIIe siècle. Il va y avoir une réaction tout à coup violente. Je vais citer juste deux auteurs que vous connaissez au moins de nom, Auguste Comte, qui va instaurer, vous connaissez son histoire des trois états, hein, c'est le prolongement de ce que je viens de dire. Il y a un premier état de l'humanité qu'il appelle l'état théologique ou fictif, où l'homme essayait de tout expliquer par des causes transcendantes, des dieux et puis un dieu, mais qu'importe, ce sont des causes fictives qui n'existent pas. Puis il y a un deuxième stade, l'état métaphysique ou abstrait, où l'homme va essayer d'expliquer les phénomènes par des causes cachées que l'on ne voit pas, mais qui sont présentes dans les éléments. Et puis il dit, il y a enfin le troisième état, l'état scientifique ou positif, qu'il appellera la religion définitive de l'homme, qui est l'état des sciences, qui étudie les phénomènes, rien que les phénomènes, avec une méthode scientifique. Il n'y a pas de connaissance en dehors de la méthode scientifique. Entendez pour lui la physique et la sociologie. Et là, la rupture est vraiment consacrée. Puisqu'il renvoie à la théologie, c'est toujours la rupture la plus dangereuse lorsque vous liez la foi à une étape de l'évolution de l'humanité. Vous entendez Hegel derrière, hein? Une étape qui est désormais révolue. Donc si vous traînez encore dans les sphères révolues, c'est votre affaire. Mais aujourd'hui, c'est la science qui est la grande religion, parce qu'effectivement, il va faire de la science, il va faire une religion. Les scientifiques sont les prêtres de la nouvelle religion. Et c'est eux qui dictent la vérité. Je vous ferai une petite citation un peu plus loin, mais je voudrais élargir un peu. Il y a donc, que ce soit Feuerbach, que ce soit Marx, que ce soit Nietzsche, que ce soit Auguste Comte, ce sont les grands maîtres de l'athéisme du XXe siècle. Pour eux, il y a une chose qui est désormais évidente, Dieu est mort. C'est ce que Nietzsche va proclamer haut et fort, la mort de Dieu. Dieu est mort. On n'en parle plus. Et vous avez entendu l'écho de ce que je vous ai lu ici au XXe siècle avec Luc Ferry. Nous vivons dans un monde sans Dieu, c'est terminé. L'affaire, Dieu est classé, le dossier est terminé, il est rangé. C'est étonnant quand même comme affirmation. Alors l'affirmation vient surtout, je répète, vient de Nietzsche. Mais Nietzsche n'est que l'écho de l'esprit. Je pourrais vous citer un tas de citations d'auteurs qui tournent autour de Nietzsche, qui ont affirmé la même chose. Sauf que Nietzsche meurt en 1900. Vous vous rendez compte? Nous sommes en 2013. Et voilà que l'intelligentsia philosophique depuis ces années-là continue à se construire sur l'affirmation que Dieu est mort. Pour eux, c'est terminé. ça fait plus d'un siècle. Vous avez vu le décalage entre la pensée philosophique, la raison, et la foi? Comment voulez-vous qu'aujourd'hui il y ait une relation paisible? Depuis un siècle, ils ont dit, mais votre Dieu est mort, que est-ce que vous voulez qu'on discute avec vous? Enterrez-le une fois pour toutes et qu'on n'en parle plus. Sauf que poliment, ça ne se disait pas parce que la société était chrétienne. Et donc on faisait semblant. Nietzsche qui fait dans son Ainsi parler Zarathoustra, il met en scène un fou, apparemment, qui en pleine journée cherche avec une lampe. Et les gens lui disent, mais qu'est-ce que tu cherches? Je cherche Dieu. Et tout le monde éclate de rire. Ah, tu risques pas de le trouver, Dieu, avec ta lampe. Et il casse sa lampe, et il se redresse, et il dit, bien sûr que je ne le trouverai pas, car il est mort, et c'est vous qui l'avez tué. C'est impressionnant comme mise en scène. Il accuse l'Europe d'hypocrisie. Il y a longtemps, vous ne croyez plus en ce Dieu, vous n'avez pas le courage de vivre dans la cohérence de ce que vous affirmez. Il faudra un siècle. C'est aujourd'hui que Nietzsche triomphe. Aujourd'hui, on arrive enfin, je ne souhaite pas, mais aux réalisations du programme de Nietzsche, au défi, à la provocation de Nietzsche. Vivez dans la cohérence de votre non-foi, de votre absolu, de la raison humaine et donc de l'homme. Nietzsche est passé d'un théocentrisme à un anthropocentrisme. C'est l'homme qui est divinisé maintenant. C'est le surhomme. Il appelle la venue du surhomme. Dieu est mort, que vienne le surhomme. Donc nous sentons qu'il y a là, il faut, dit-il, que l'homme supérieur se mette à l'œuvre dans la volonté de puissance. L'homme-dieu, carrément, il le dit, hein, l'homme-dieu, le triomphe d'une humanité toute puissante, le fils de son marque, la volonté de puissance, un des termes que l'on trouve chez Nietzsche et qui peu à peu vont faire leur chemin. Mais il faut du temps parce qu'il y a une sorte de résistance du peuple, ça c'est des philosophes. Et il y a toujours aussi la croyance, heureusement, que nous sommes là. En même temps, le 19e siècle a été un siècle où il y a eu des fondations d'ordre religieux admirables. Nous allons fêter demain de Ligorie, qui est un grand saint de cette époque-là. L'Église a continué à vivre, mais je vous parle de la raison et de la foi, je vous parle là de la raison qui résiste, enfin tout ce que résiste rejette la foi. Alors Dostoïevski, c'est 19e siècle aussi, Dostoïevski a très bien vu tout ça. Mais c'est un auteur russe, alors oui, c'est une autre approche, mais c'est vraiment passionnant, c'est un prophète. Hein. Et quand Dostoïevski, il y a là une ironie, il met en scène dans les possédés Kirillov. Et Kirillov est un praticien et un théoricien de l'humanisme athée, qui représente cette humanité, et qui décide d'être l'homme nouveau, cette nouvelle humanité. Oui, mais comment est-ce qu'il va démontrer qu'il est affranchi de tout ce qui vient de Dieu? Eh bien, Kirillov va se suicider pour montrer sa victoire sur la peur de la mort, et par cet acte ultime de négation, il va vouloir montrer qu'il est libéré de toute aliénation, qu'il dépasse le besoin de Dieu en faisant de lui-même un Dieu homme. Waouh! Pour prouver que je suis Dieu, ma seule façon, c'est de me suicider pour montrer que je suis tout puissant sur la vie et la mort. Ah! Ça, c'est typiquement Dostoïevski. Hein. C'est très dur à entendre. Hein. En même temps, on pourrait dire c'est de l'ironie. Mais non, dites frères et sœurs, c'était prophétique ou quoi? Regardez aujourd'hui. La toute puissance de l'homme sur la vie et la mort, dans le sein de la mer, et l'euthanasie, ça va vous... On parle déjà en Belgique, c'est servi jusqu'après les vacances, l'euthanasie des enfants. Mais vous voyez, nous y sommes à l'homme Dieu qui a tout pouvoir, et venu pas nous parler de Dieu. C'est impossible le dialogue sur la défense de l'embryon, c'est impossible, parce que c'est un amas de cellules. Nous sommes dans un contexte de matérialisme et de positivisme. En même temps, d'irrationalisme, mais ça peut-être que c'est pour demain. Mais il y a une absolue volonté de maîtrise absolue, sans référence hétéro-nomos, rien du tout. Et c'est le programme nietzschéen, et c'était prophétique ce qu'il disait là. Nous voulons prouver que nous sommes tout puissants, aussi puissants que Dieu, en disposant de la mort et en disposant de la vie. Le gender qui va peu à peu vers l'utérus artificiel, où on va distinguer, séparer complètement l'amour et la reproduction. L'amour sera homme-femme, homme-homme, femme-femme, comme vous voulez, ça, le gender, vous faites ce que vous voulez. La reproduction, ce sera dans ces utérus artificiels, on prendra un ovule ici, qu'on choisira bien, un petit spermatozoïde là, qu'on mélange, secouer 2 minutes, et mettez dans l'air. Et on fera l'eugénisme comme on veut, on fera du choix. Est-ce que je suis un prophète de malheur? Mais non, je vous dis ce qui se passe sous nos yeux. Vous savez, c'est à ça que je travaille. Il y a un petit bouquin sur le gender, il y en a 3 qui vont suivre. Hein. 1 sur l'eugénisme autoritaire, 2 sur l'eugénisme que l'on induit, soi-disant démocratique, que l'on induit dans le peuple par ses manipulations sur les enfants, et 3e, l'euthanasie. Nous sommes en plein dans cet eugénisme qui se présente comme une volonté de puissance absolue et qui est toujours lié à un rejet de christianisme. Pardon, je n'invente pas, hein, je le vois dans les textes, c'est très frappant, c'est une lutte entre l'homme qui se divinise et qui veut prendre la place de Dieu. Il a vidé l'athéisme, on vide le trône de la présence de Dieu pour y mettre l'homme à sa place. Alors, continuons sur cette chose. Ah oui, j'ai ici là, qu'est-ce qu'on met à la place, c'est donc la divinisation de l'homme. Mais quand même, je vais essayer de lire un passage d'Auguste Comte aussi pour vous montrer comment ces courants rationalistes et humanotistes, enfin bref, arrivent dans l'absurde. Écoutez ce que dit Auguste Comte. Quand on pousse jusqu'au bout cette logique de rien que la raison. Dans la nouvelle foi, la foi en les possibilités de la raison humaine par la science, transférant à l'humanité les prérogatives que les chrétiens reconnaissaient à Dieu, ça c'est l'explication de Feuerbach, qui est un nom que vous ne connaissez probablement pas, mais qu'il faut, il est derrière Marx, il est derrière Nietzsche, il est derrière Freud aussi en partie, derrière la Méduse soupçon. Feuerbach dit, Dieu n'existe pas, c'est l'homme qui l'a créé en projetant hors de lui le meilleur de soi. Tout ce qu'on a trouvé de bon en nous, on l'a projeté sur Dieu. Donc, il faut reprendre en nous ce qu'on a projeté sur Dieu. La foi est une folie dangereuse parce qu'elle aliène l'homme de ses propres valeurs, qualités et capacités. Donc, il faut combattre. Ah, vous voyez, là, on est passé d'une juxtaposition à un combat. Il faut combattre la foi parce qu'elle empêche l'humanité de récupérer ce qui est à elle. Auguste Comte, transférant à l'humanité les prérogatives que les chrétiens reconnaissaient à Dieu, le positivisme prend par le fait même, sur le terrain social, le contre-pied du christianisme dont il se veut l'héritier. Sans droit en face de Dieu, puisqu'il tient de lui tout son être, l'individu pensait en avoir en face de la société. Les chrétiens n'avaient pas de pouvoir devant Dieu, mais dans la société, là, il exerçait une autonomie, un pouvoir. Alors Comte dit, mais si la société manifeste adéquatement la seule divinité véritable, c'est l'humanité qui est divine, c'est donc la société qui est divine, dont l'individu reçoit tout ce qu'il est, comment celui-ci aurait-il en face d'elle aucun droit? Si l'humanité est divine, alors vous n'avez aucun droit. C'est l'humanité qui est divine, vous devez vous soumettre à l'humanité. Je continue. Cette notion de droit est théologico-métaphysique, elle est entièrement périmée, elle est fausse autant qu'immorale. Elle doit disparaître du domaine politique comme la notion de cause du domaine philosophie. La foi positive, substituant partout le relatif à l'absolu, substitue les lois aux causes et les devoirs aux droits. L'individu n'est qu'une abstraction, s'il n'est l'organe du grand être. Il n'y a de salut pour lui que dans l'esprit d'ensemble et le sentiment du devoir. Fin de citation. Waouh! C'en est fini de la démocratie, ça n'existe pas. C'est l'humanité qui est divine, et bien chaque individu est une cellule d'humanité, doit se soumettre à cela. Autrement dit, c'est un totalitarisme où la démocratie n'a plus sa place. Attention, frères et sœurs, dans cette globalisation, cette mondialisation galopante, vous savez que la nouvelle gouvernance mondiale fonctionne totalement différent que nos démocraties. Et là aussi, je peux vous citer les textes officiels, où maintenant il y aura une gouvernance à 2 niveaux. Il y a une gouvernance mondiale qui est donnée à quelques personnages, pas forcément les personnages politiques, aux grands du monde économique. puisque c'est l'argent qui est le pouvoir, en quelque sorte. C'est eux et les grandes banques, les Rothschild et compagnie. Ça, c'est ceux qui dirigent les grandes orientations politiques du monde. On intègre les élus du peuple, mais ils doivent se couler dans l'ensemble. Alors, où passe la démocratie? La démocratie se limite à résoudre les problèmes locaux. Est-ce qu'on renouvelle les bâtiments de la mairie? Vous m'avez compris? On va pouvoir jouer dans la cour des petits. Et ce sont d'autres des grands qui vont nous diriger. Et mondialisation oblige, il faut suivre. Mais mon Dieu, mais Auguste Comte n'est pas mort. Mais bien sûr qu'il n'est pas mort. Le positivisme est toujours là. Et d'ailleurs, dans une société où on ne tient plus compte, où Dieu est considéré comme mort, où il n'y a plus de transcendance, où la divinité est immanente, mais où voulez-vous qu'elle soit? C'est dans cet ensemble, gouverné par une oligarchie qui va très bien organiser le pouvoir pour le maintenir. Sa première action, c'est justement cet eugénisme. On est trop nombreux. La planète ne peut pas nous porter, c'est faux. Archi-faux. C'est tout simplement qu'on ne veut pas partager les richesses avec un trop grand nombre. Donc il faut diminuer le nombre. Oui, nous sommes dans un racisme anglo-saxon qui est occupé à déployer une politique eugénique redoutable avec la santé reproductive dans les pays en voie de développement qu'on ne veut pas aider. Où la santé reproductive, au contraire, c'est l'élimination progressive. Ouvrons les yeux. Et c'est dans cette logique que je vous décris ici, de cette rupture entre raison et foi, lorsque la raison s'affranchit de toute transcendance, lorsqu'on est uniquement dans une immanence. Nietzsche a raison, c'est la loi du plus fort, « Willer zum Markt ». L'Übermensch, celui qui s'impose, c'est celui qui a les moyens de s'imposer, c'est celui-là qui doit avoir le pouvoir. Et c'est ce que nous voyons comme programme. Alors, est-ce que Nietzsche adhère à ce programme? Je reste auprès de Comte et Nietzsche, hein, parce que c'est les deux prophètes. Comte, donc, c'est une sorte de scientisme et de la sociologie aussi qui développe dans son rationalisme. Nietzsche, paradoxalement, nous allons voir l'application aujourd'hui. J'essaie de vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes à une convergence. Il y a en même temps un positivisme, mais en même temps, il y a une entrée, vous le savez bien, beaucoup d'irrationalisme aussi. Alors, regardons tout ce que Nietzsche dit. Nietzsche considère qu'il faut rompre avec un monde moderne en décomposition. Il dit, la raison, certes, c'est bien l'intention, que cela n'étouffe pas la vie. C'est vraiment un homme, vous savez qu'il a terminé fou, c'est le philosophe Foucault, c'est un homme tourmenté. Tourmenté avec ses grosses moustaches qui lui couvrent la moitié de son visage. Vraiment tourmenté. Et lui, au fond, c'est un vitalisme. Ce qu'il veut, c'est laisser libre cours à la vie. Il faut que la vie reprenne ses droits. Alors, il est contre Apollon, qui est l'image, et Socrate, contre l'image de la rationalité, de la philosophie rationnelle. Et il veut qu'on retourne à Dionysios, l'ivresse dionysiaque, c'est-à-dire le retour à la spontanéité des instincts. Vivre ce qu'on a envie, maintenant, tout de suite, toujours plus fort. Vous voyez le rapport avec notre monde? Il a écrit un livre qui est intitulé « Au-delà, bien et mal ». Nietzsche pourfend Dieu parce qu'il veut vivre dans un monde sans valeur. Et il sait très bien que les valeurs trouvent leur unité et leur socle en Dieu. Or, si Dieu est mort, les valeurs volent en éclats. À chacun sa vérité. Le relativisme contemporain, c'est du Nietzsche. Chacun sa vérité, chacun détermine ce qui est bien et mal. Il n'y a plus de morale, vous faites ce que vous voulez. Vous cherchez une jouissance physique, c'est bien pour vous. Une jouissance psychique, c'est bien pour vous, spirituelle. Qu'importe, il faut jouir de la vie. Vous voyez qu'on passe une pendule passe d'un côté à l'autre. Hein. Ce n'est plus la raison qui doit dominer, c'est l'instinct de la vie qui revient. Oui, mes amis, croyez avec moi à la vie dionysiaque, à la renaissance de la tragédie. Les temps de l'homme socratique sont révolus. Ayez le courage d'être des hommes tragiques, car ainsi vous serez sauvés. Sauvés, vous m'entendez, hein? Préparez-vous dans un rude combat et croyez au miracle de notre Dieu, Dionysius. Le combat contre vous-même, contre les résistances de votre conscience morale. Mais allez-y, notre Dieu, c'est la vie qui s'élance avec toute la spontanéité. Regardez autour de vous. Et il y a des aides, hein. On parlait en venant d'ici d'Internet avec les X et le porno et tout ça, comment protéger nos enfants? Il y a une volonté de les conduire sur un chemin d'amoralisme. Et dans l'éducation, je ne sais pas en Belgique ou en France, mais c'est délirant, quoi. Délirant. On conduit des jeunes qui vont chercher à rien d'autre que jouir. Je ne suis pas contre la jouissance, Dieu n'avait qu'à pas nous faire capables de jouir. Si vous ne voulez pas qu'on jouisse, je ne suis surtout pas contre la jouissance. Mais pour Dieu, c'est la grâce qui éclaire l'intelligence, qui fortifie la volonté et qui nous donne de mettre les passions de l'âme, la capacité de jouir au service d'un projet divin, mon Dieu, et pas de devenir esclave des passions. C'est cela qui est piégé. Il y a une négation de la raison, des valeurs spirituelles, et un entraînement vers uniquement les passions charnelles. Et ça, c'est purement le programme de Nietzsche qui se réalise. Alors, il remplace, là, il n'est plus dans une recherche comme Auguste Comte, un système rationnel, il exalte le mythe, inventer, créer, imaginer la vie qui est pour vous. Ça aussi, c'est très actuel. Quand un jeune me répond sur Internet, avec qui je discute, et je lui dis, non, mais enfin, quand même, il y a des règles élémentaires, c'est que l'évidence, on la reçoit pour ce qu'elle est. Il me répond, c'est une règle dans ton monde à toi, pas dans la mienne, je la refuse. Et ben voilà. Voulez-vous que je dise? Je vous répète, sur le plateau de télévision, vous avez entendu qu'en France, il y a un grand combat au niveau de la défense de la famille. On met sur le plateau de télévision, on a mis Xavier Lacroix, qui est un laïc, mais un très bon théologien, défenseur de la famille, professeur aussi à l'Université catholique de Lyon, où j'enseignais. Et en face, on a mis un sénateur du parti, pour éviter de faire politique, je ne vais pas dire le parti, mais qui est une partie de la majorité de M. Hollande. Alors, notre Xavier Lacroix, qui est vraiment très intelligent, très respectueux, explique les raisons de l'opposition à ce projet de loi, ce jando, disons. Et l'autre écoute avec beaucoup d'attention. Et puis il reçoit la parole, il dit, monsieur, je vous ai bien écouté, et je constate tout à fait la cohérence de votre discours. Sauf que vos principes ne sont pas les miens, et que je peux vous développer la cohérence de mon discours qui n'aura rien à voir avec le vôtre. La différence entre les deux discours, c'est que nous avons la majorité. Autrement dit, est vrai le discours qui a la majorité. Donc il n'y a plus de vérité. La vérité est relative et c'est celui qui a la majorité qui peut l'imposer. Mais ça, la vérité est morte. Comment voulez-vous encore dialoguer? Et au nom de votre foi, Dieu est mort, on vous supporte de parler de vos dieux, mais vraiment c'est par condescendance, c'est parce qu'il ne faut pas être fanatique, et si ça vous fait du bien, moi c'est la bière, c'est mon Dieu, très bien. Mais parlez-nous de choses intéressantes. Alors vous sortez des arguments qui sont basés sur votre foi, on vous dira, mais je vous ai bien entendu, c'est cohérent, c'est intéressant ce que vous dites. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ma vérité. Comment voulez-vous encore dialoguer? Ce n'est pas ma vérité. Donc nous sommes dans un jeu de pouvoir. Hélas, la raison coupée de l'illumination divine, c'est-à-dire de la charité, va devenir un instrument au service du pouvoir, de la coercition, et de tout sauf la charité. Et c'est ça à quoi nous assistons. Alors, je crois qu'il y a... Je vais arrêter pour vous laisser la parole. Oui, en contrepoint, je citerai Gabriel Marcel. Au fond, ce que vous entendez, c'est qu'on refuse le mystère. La raison refuse le mystère, le rationalisme, et veut tout réduire à un problème. Sauf que l'homme n'est pas un problème, une énigme, il est un mystère. Il y a des choses qui, en nous, sont plus grandes que rien, uniquement la nature qui peut être étudiée par la raison. Il y a cette ouverture sur la transcendance. Alors, il y a quelque chose de mauvaise foi, de vouloir, au début du troisième millénaire, prétendre qu'on a définitivement déraciné le désir de Dieu qui habite le cœur de l'homme, alors que depuis que l'homme existe, il manifeste cette soif d'une transcendance. Dans différents systèmes de religieux, certes, mais il y a toujours ce désir d'une transcendance, une ouverture vers ce que nous appelons Dieu. l'homme de Néandertal. En terre, ses défunts, tournés vers l'Orient. Il met des urnes avec la nourriture, parce que le voyage va être long. Immortalité de l'âme. Il ouvre la fontanelle de ses défunts. Ils ont donc constaté que les enfants naissent avec la fontanelle ouverte, et ils ouvrent la fontanelle de leurs défunts pour signifier que s'il est mort chez nous, il naît à une réalité, à une vie nouvelle. Mais dites, l'homme de Néandertal manifeste déjà le sceau de l'hominisation, c'est là les paléontologues le reconnaissent à ces signes de l'ouverture à une transcendance. Toute la gloire de toutes les cultures a toujours été cette articulation, je dirais de la nature et de la grâce, mais pour d'autres cultures, ce n'est pas la grâce, mais cette articulation de la transcendance et de l'immanence. Alors on a dû attendre jusqu'à ce fin du XXe siècle pour arriver à une ère de l'humanité où on décrète comme ça arbitrairement que Dieu est mort et qu'il ne fait plus partie de l'horizon de l'homme. Eh bien, si Dieu est réellement mort, l'homme aussi est mort. Parce que l'homme sans la transcendance n'est moindre qu'un animal. Le père de l'Église le disait déjà. Un homme qui réfléchit, dont la raison ne fonctionne pas, illuminée par la grâce, va faire des horreurs que l'animal n'a jamais faites. Et il avait raison. La Shoah, aucun animal ne l'a inventée. Il faut être un homme égaré loin de la lumière divine pour réaliser cela. Et en plus, je n'ai pas parlé du démon, pour qui, évidemment, nous sommes la cible toute visée. Ils s'en fichent pas mal des animaux. C'est l'homme qu'ils visent, bien entendu. Alors voilà le drame où nous en sommes aujourd'hui. Cette rupture, cet affrontement, c'est plus qu'une rupture, cet affrontement, cette virulence contre la foi, elle ne date, je voulais vous montrer, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle est préparée de long terme par des philosophes qui ont d'abord marqué une simple rupture, une prise de distance, puis une méfiance et enfin une agressivité ouverte qui est la cataphobie, plus exactement, la cataphobie, on pourrait dire la christianophobie hein, contemporaine. C'est plutôt une cataphobie qu'une christianophobie. C'est les catholiques qui sont visés pour des raisons doctrinales très faciles, parce que nous avons un magistère, alors que nos frères protestants, il n'y a pas cette unification de la pensée. Et chacun a reçu l'Esprit Saint pour évaluer sa position. Donc il n'y a pas de bloc réellement contre cette position que je viens de développer. En plus, il y a aussi la position de Luther par rapport à la raison qu'il désignait comme la grande prostituée. Donc il y a tout un contexte qui fait qu'on comprend que le ministre de l'Éducation en France aujourd'hui ose dire, je termine vraiment parce qu'on pourrait parler des heures, mais je veux rentrer dans un dialogue, il ose dire, je vous cite de mémoire, mais c'est pratiquement cela, il a une audace extraordinaire, hein, où il dit la Révolution française n'est pas encore arrivée à ses termes. Soit concerne toute l'Europe, c'est pas que la France, mais pas vraiment arrivé. N'oubliez pas, la Révolution française, le projet, c'est de construire une société sans Dieu, contre Dieu. Hein. Vraiment, c'est une société qui se fonde entièrement en dehors d'une référence à Dieu. Il dit, mais la Révolution française n'est pas encore achevée. Et n'a pas pu aller jusqu'au bout en France parce que la France est catholique. Dans les pays limitrophes protestants, là, oui, elle a pu vivre beaucoup plus. Donc chez nous, puisque la majorité reste catholique, eh bien il faut fonder une nouvelle religion, sikh. Si, je ne brode pas, c'est incroyable ça. Il faut fonder une nouvelle religion, la religion de la République, la religion laïque. Vous entendez bien? Une nouvelle religion sans Dieu. Religion de l'homme, religion de la Révolution française, de l'homme pleinement affranchi de Dieu, hein, sans roi ni loi, sans Dieu ni roi ni loi. Voilà ce qu'il ose dire, et il faut, il est contre les écoles privées, particulièrement catholiques, il faut soustraire les enfants à l'influence des parents, parce que les parents vont les formater d'une façon qui n'est pas conforme à la pensée de la République française. Mais c'est du totalitarisme, c'est de la manipulation mentale. Il faut soustraire les enfants de l'influence des parents et les conditionner à la religion républicaine dans les écoles laïques. Sans commentaire. Voilà où nous en sommes dans le beau pays de France. Je crois que la Belgique n'est pas mieux lotie. Encore une fois, je vous le dis, pour comment peut-on aujourd'hui en arriver là? Eh bien voilà, c'est ce que j'ai essayé trop rapidement de faire, mais vos questions vont m'aider à compléter. Mon tableau est incomplet. C'est ça que faudra vous voir, parce que là, je suis venu du fond des âges et surtout de la modernité. Comment la modernité, d'abord conciliante, encore catholique dans l'aspect social, mais ne l'étant plus dans la pensée, est peu devenue rupture et est devenue agressive. Mais n'oubliez pas que nous ne sommes plus dans la modernité. Nous sommes dans la postmodernité. Et là, il y a encore un pas que je pourrais vous montrer demain. Qu'est-ce que la postmodernité dans laquelle nous sommes? J'y ai fait une allusion. C'est cette rencontre des contraires, du rationnel positiviste et de l'irrationnel, penser à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais on est rationaliste, hein, on est scientifique positiviste. Mais on demande à des guérisseurs, des coupeurs de feu, d'avoir de donner leur adresse dans les hôpitaux pour qu'on puisse les appeler. Ça, c'est du post-moderne. C'est pas de la modernité. C'est du post-moderne. Où là, on est dans un micmac confus. Et ça, si vous le voulez, ce serait, je continuerai demain à avancer ça. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que nous sommes dans cette société et que nous le voulions ou non, nous sommes tellement plongés dedans que forcément elle déteint sur nous. Et que c'est très difficile de garder une conscience chrétienne qui ne soit pas simplement dans notre petite sphère privée, notre cœur, mais qui soit aussi dans notre intelligence, une façon de penser chrétienne et une façon de vouloir chrétienne. Ce n'est pas facile. Nous sommes tellement sous la pression, et je ne parle même pas de la violence, sous la pression médiatique et des informations tendancieuses, que c'est important de réfléchir et de comprendre les mouvements culturels pour pouvoir se situer dans notre originalité, au milieu de tout ça. Merci de votre patience à vous maintenant, pendant le temps qui nous reste, à vous maintenant de poser des questions, de me faire compléter.